Non, et je fais des heures de conseil scientifique ces années-là, pour ceux qui ne me connaissent pas. Et c'est vrai que j'ai un lien d'intérêt, donc je n'ai enfin, aucun conflit d'intérêt financier, je vais aller voir sur transparence, par exemple. Par contre, j'ai un lien d'intérêt avec cette question parce que j'ai fait ma thèse de philosophie sur la déconstruction de l'essai clinique randomisé. Bon, c'est un peu compliqué, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais j'ai dit en gros que l'essai clinique randomisé avait des limites. Mais c'est un peu bateau parce qu'en fait tout le monde le savait, mais en fait je l'ai dit en thèse de philosophie, donc je suis content. Et puis en fait en croyant, comme tout le monde, qu'en fait que le BM c'était tellement un colosse qu'il fallait l'attaquer quoi. Enfin, c'était ça mon idée comment en fait. Et puis en fait j'ai découvert après que je m'étais fait qu'en fait le BM c'est un mythe, c'est de la science-fiction. Ça, je cite Jared Giegerhanser, un petit collègue allemand assez brillant, qui dit, mais oui, mais c'est dans le fantasme. D'un coup, vous avez vu qu'en fait, le BEM, enfin, on va en disputer, mais enfin, vous allez voir qu'on en fait vraiment, en fait. Puis qu'on n'en fait pas, ça dépend des définitions de Voilà, donc je commence, ça va être un petit peu long, je vais essayer de vous réveiller un petit peu, j'ai vraiment à cœur de présenter tout ça, donc, faut à m'excuser si des fois, je me perds un peu. Bon, alors le BEM, plus on en a assez parlé. C'est quoi? C'est depuis 2007, 15 ans après donc, le papier de Gordon Period. C'est un courant récent de philosophes et sciences de la médecine qui prône la prise en compte des données mécanistiques dans les affirmations causales. Mécanistique, pour eux, c'est pas de la biologie, c'est aussi sociologie, ils sont très intégratifs. Là, ça se base sur la thèse de Federica Russo et John Williamson, qui sont sur Twitter, enfin, sur X. Vous pouvez me contacter. J'aurais écrit pour avoir des précisions sur qu'est-ce qu'ils disent, en fait. Mais c'est quoi, alors, donc, j'ai des mails. On doit se voir en visio parce que je compte bien faire un papier sur des critiques de l'EBM+. Donc voilà. Mais je les ai contactés. Ils sont vraiment très adorables. Ils parlent français avec des Lécas à Rousseau. Donc, n'hésitez pas aussi à avoir des échanges. Et en fait, elle dit quoi? Eh ben, pour affirmer un lien entre une cause putative et un effet, ben, il est nécessaire d'avoir une corrélation, voilà, augmentation de la probabilité, et puis surtout d'avoir un lien qui s'explique par des mécanismes. Voilà, pour eux deux, c'est vraiment la base. Et donc, ils critiquent l'EBM comme actuel, enfin, comme ce qu'ils pensent être l'EBM, qui ne tiendrait pas compte des faits probants importants. Puisque les études biologiques, finalement, ils ont raison. Vous allez voir dans la pyramide des preuves, elles sont inexistantes. En fait, elles sont même pas dans les avis d'experts. Enfin, vous voyez, c'est vrai qu'il y a là-dessus l'UVM de Cochrane et de Guyatt. Et après que la médecine a dit, bah, pour établir que corrélation n'est pas causalité, on va plutôt passer par l'essai clinique randomisé en double induction, on va le voir. Et eux, ils disent non, c'est pas la randomisation qui fait ça, c'est les mécanismes. C'est intéressant de savoir de quoi ils parlent. Et donc, il y a un papier pour moi qui est extrêmement important. C'est celui de EBM-BMJ en 2018, qui résume donc la pensée de ces philosophes. Ils sont 42 signataires. Vous avez les plus grands philosophes des sciences du monde. Nancy Cartwright, Alex Broaddunt, Rani Dillinger, Elena Rocca, Federica Russo, John Williamson. Vous avez ils ont écrit, mais il y a Jonathan Fuller au Canada, Jacob Steganga, qui a fait aussi un bouquin sur le nihilisme thérapeutique. Vous avez toute la crème de la philosophie mondiale dans ce papier. Il y en a d'autres trois qui n'ont pas signé. Jérémy Howick, et un collègue et ami, David Terra aussi, que je le cite. Mais globalement, c'est ça, la philosophie des sciences. Donc, ils ont dit, ben voilà, il faut arrêter avec cette notion d'évidence. Le BM doit reconnaître, encore une fois, les mécanismes. Je ne vais pas y revenir. Voilà. Ils veulent surtout que, ils veulent pas, ils sont pas contre les essais cliniques. Ils se rendent bien compte que quand même, c'est un figure de, il y a ça. Ils disent, mais, il faut prendre en compte les évidences de d'autres natures que l'essai clinique quand on veut parler de fait probant. Ça, Bruno l'a tout à fait bien exprimé tout à l'heure. Et comment elle naît? Et ça, ils ont raison. On verra que c'est hyper important. Puis les conditions de l'efficacité, donc ils ont raison, ils apportent quand même des éclairages extrêmement intéressants. Voilà, je descends jusqu'à John Williamson en 2019. Et par contre, ils ont, vous allez voir, ils disent que la thèse dans RWT, c'est la thèse de Russo et Williamson, ça a motivé l'approche EBM+, en lien avec l'EBM original, comme sa quête l'avait pensé, mais pas l'EBM comme elle est pratiquée aujourd'hui. Vous voyez, là, déjà, il y a deux EBM qui, il y a une EBM qui serait au départ, puis une EBM comme elle est pratiquée aujourd'hui, et eux, ils s'attaquent plutôt à l'EBM comme elle est pratiquée aujourd'hui, puis ça fait écho un peu aux trois cercles. On dit tout à l'heure, bah, il y a trois cercles, et puis en fait, il y en a qu'un. Bah, vous allez voir que moi, je suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il y a trois cercles et il y a bien, et le cercle des preuves, il n'est pas du tout pris en compte, contrairement à ce qu'on pense. Donc, en fait, vous allez voir, on va tous débattre là-dessus. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez, un peu confusionnant, je sais pas comment, confusionnel, c'est-à-dire de, mais de quoi on parle là? On va voir ça. Alors, il dit, par exemple, John Williamson, je lui ai envoyé un Twitter, vous voyez, ça c'est sur Twitter, et je lui dis, mais pourquoi vous dites que les essais cliniques randomisés ne tiennent pas compte des mécanismes? Ben, il dit, bah, vous voyez, dans les méta-analyses Cochrane, par exemple, à la fin, les mécanismes ne sont pas pris en compte. Voilà. Donc, ils aimeraient en fait que dans les méta-analyses, au lieu de s'arrêter aux essais randomisés, bah, on prenne en compte des études d'observation, et puis qu'on aille aussi aux études biologiques et mécanistiques. Et après, on mette l'ensemble des problèmes. C'est pas idiot comme, quelque part, c'est pas intéressant, mais pourquoi la médecine a dit, bah non, ça, on s'en fout. Voilà. Donc, ils critiquent le fait que s'il existe des preuves de corrélation, en fait, ils disent que, alors, ils critiquent ça, ils disent que quand il n'y a pas d'essais randomisés, on est bien content d'avoir des mécanismes. Ben, c'est vrai, hein. Quand on fait un massage cardiaque, la méthode d'Amnich, enfin, il y a des gros trucs dans la médecine qu'on fait sans essais cliniques randomisés parce que c'est empirique et parce que c'est très mécanique, c'est très logique. Voilà. Et du coup, voilà, la médecine ne peut pas ignorer quand même ça. Ils ont pas tort, mais c'est quand même marginal. Et on va voir, c'est l'argument qu'on a peut-être du parachute. Médecine, c'est-à-dire qu'il y a un essai randomisé pour évaluer l'effet du parachute. Mais les situations dans lesquelles le parachute, enfin, c'est des situations exceptionnelles, il y en a quelques-unes en médecine, mais on peut pas aussi prétendre généraliser la médecine à que des parachutes, où la mortalité est de 100%, à chaque fois. Donc, ils critiquent, voilà, ils disent, et par contre, quand il y a des essais cliniques, ben, vous voyez, vous oubliez les mécanismes qui vous arrangeaient bien au départ. Dans la pyramide des preuves, que Hervé aussi a fait, je me disais, il n'y a pas une étude mécanistique. Voilà. Et donc, ils vont jusqu'à dire que les mécanismes devraient être pris en compte dans la décision. Et puis, ils apportent une information qui est intéressante. Ils sont très utiles à la validité externe et, donc, on appelle aussi à l'extrapolation et aussi à l'individualisation. Et là-dessus, il y a des choses à regarder. Je pense que c'est pas inintéressant, mais, bah oui, gros, c'est pas blanc ou noir, il faut pas forcément, mon propos ne va pas être de dire qu'ils ont complètement tort mais ils ont tort sur un point et c'est celui-là que je vais appuyer aujourd'hui. Alors, le BN+, ça a été boosté par la pandémie de COVID. Et tout à l'heure, il a montré un livre de Tricia Greenhalgh, une médecin généraliste de santé publique anglaise, qui a écrit Lier le savoir des cils. Et elle écrit maintenant ce papier, elle dit maintenant, le BM doit évoluer ou mourir. Elle doit s'adapter. Parce que la COVID a tout bouleversé. Alors, elle dit bien que les essais cliniques ont contribué quand même à la science du COVID, mais ces méthodes sont adaptées pour répondre à des questions simples. Ça, Bruno l'a dit. Dans un contexte assez stable. Et c'est vrai que les masques, la distanciation, l'aération n'ont pas été dit, toutes ces mesures n'ont pas été décidées sur la base des essais cliniques. Et elle dit que si on avait attendu les essais cliniques, on n'aurait jamais agi. Et donc, elle dit que l'exclusion des autres études est problématique dans un contexte de pandémie. Mais quelque part, je trouve que c'est pas inintéressant aussi, mais c'est très contextuel. Est-ce que la pandémie Covid peut dire, bah, ce qui s'est passé dans un moment particulier peut être généralisable à la médecine d'aujourd'hui. Et du coup, justifierait le fait que, bah, puisque dans les moments d'urgence, il fallait prendre des décisions sans preuve, bah, on n'a peut-être pas besoin finalement des preuves. C'est un peu ça qu'elle sous-entend. Alors oui, ou des preuves plus complexes. Et donc, elle prend le mouvement EBM+, dans un peu ça. C'est extrêmement pertinent. Cet article est extrêmement intéressant aussi, je vous le conseille, pour tout ce qui est complexité. Et donc, c'est assez intéressant. Bon, alors, mon plan. Donc, voilà, en 5 points, nous allons voir que, pour moi, le BM+, c'est un épouvantail, ils disent, un straw man, en anglais, un homme de paille, c'est-à-dire quelque chose qui s'attaque à quelque chose qui n'existe pas vraiment. On va voir dans un point 2 qu'ils ont confondu la causalité concernant l'efficacité de l'intervention thérapeutique et la causalité. Et là, ils ont oublié l'histoire. Pour des philosophes des sciences et de la médecine, je trouve que c'est dommage d'avoir oublié l'histoire de la médecine, en fait, qui a conduit aux essais cliniques. On verra comment décider. Et là, je vous apporterai un autre regard de ce que moi j'entends par l'UBM. Et en fait, je critique la fameuse représentation des trois cercles. Je vous donnerai un petit exemple rapide sur RB, qui est le projet que je porte au sein de médecine générale, pour l'évaluation des médicaments, l'efficacité des médicaments. Et puis, on verra quand l'essai clinique est bien sûr est nécessaire, mais bien sûr pas suffisant. Et puis, souvent, il est impossible. On verra que je propose aussi une idée en l'absence d'essai clinique randomisé, comment on peut faire pour éviter deux écueils, sans essai, pas de salut en dehors des essais cliniques, mais on voit qu'il y a beaucoup de situations qui ne peuvent pas être évaluées par les essais cliniques. Et puis dire aussi, bah, puisqu'on ne peut pas évaluer, bah, tout se vaut. Et puis on ne sait pas comment on prend et qui décide. Donc moi, je proposerai une petite méthode pour sortir de ce dilemme et de définir les évidences a priori. Qu'est-ce que c'est qu'une évidence a priori et non pas a posteriori? On verra que Neyman et personne, Bruno aussi, on a touché deux mots. C'est vraiment cette méthode qui est intéressante. Voilà, alors c'est un homme de paille. Où ont-ils vu que la médecine fonde ses pratiques sur les seuls essais cliniques randomisés? La médecine d'aujourd'hui, celle que vous faites dans vos cabinets. Dans tous les exemples que ces philosophes ont cités, ils vont prendre l'exemple, enfin, que des médecines non conventionnelles. L'homéopathie, qui n'est pas à pratiquer, et la prière à distance, parce qu'il y a eu des essais cliniques sur l'effet de la prière à distance. Ils ne prêtent aucun exemple de notre pratique. Bon. Du coup, quand je dis que ça, de montrer les exceptions, les anomalies, je dirais, d'un système, en plus, qui n'est pas vraiment l'UVM, parce qu'il ne me semble pas que la prière à distance soit recommandée. Enfin, je sais pas. Si, c'est de. Et du coup, je ne comprends pas leur exemple pour illustrer que la médecine se base sur des essais cliniques randomisés sans mécanisme. Hein, parce que ces études-là, ils les prêtent pour dire qu'il y a des essais cliniques avec un rationnel qui est peu pertinent. Enfin, c'est grosso modo les rares essais, en tout cas. Donc, en tout cas, la médecine classique, elle reconnaît l'importance des mécanismes. Au moins, il n'y a aucune intervention aujourd'hui qui est prescrite sur la base des essais cliniques qui sera à risque de biais et qui serait positif sans rationnel mécanistique et épidémiologique. Ils essaient de phase 3 dans le médicament, ils incluent dans leur rationalité tous les justificatifs mécanistiques et observationnels et même les autres études, etc. Bon, je prends un exemple. Ah non, ça, il fallait pas que je fasse ça. Bon, c'est moi. Voilà. Un exemple de papier, mais c'est pas, vous savez tous. Quand vous prenez n'importe quel papier, dans les publiés dans le New England, par exemple, quand vous avez un essai randomisé qui est publié, vous avez le rationnel, avec 20 références bibliographiques pour dire qu'il y a un mécanisme et puis qu'il y a des études observationnelles. Ça coûte tellement cher un essai clinique que si vous n'avez pas de rationnel, vous êtes recalé dans tout vos protocoles. Alors, il faut avoir des sous par des fondations, il faut avoir des sous par des moyens. Mais aujourd'hui, la recherche, comme elle est pratiquée, ne donne pas des sous sans rationnel et sans, enfin, il faut qu'il y ait un intérêt. Et en fait, voilà, la probabilité pré-test, elle est implicite. Il y a un raisonnement bayésien derrière ça. C'est évident. On donne pas de l'argent n'importe comment. L'essai clinique, c'est pas non plus un moyen de c'est quoi? C'est comment c'est conçu? C'est un test d'hypothèse, en fait. T'as pas bien son nom. C'est un test expérimental pour vérifier que ma construction théorique basé sur des tas de données, et mon hypothèse, qu'il faut traiter comme ça tel patient, elle apporte quelque chose. En fait, c'est un test. Ça ne dit pas grand-chose de plus à la fin qu'une différence. Mais c'est un test. Bon, en gros, pour les rappeler un peu les faits, il faut savoir que 54% des essais de phase 3 sur le médicament avec tout le rationnel et l'éducatif, tout l'argent d'industrie, hein, avec des millions d'euros, des milliards de dollars, ils échouent à obtenir l'AMM par la Food Drug and Drug Administration. Et 57%, c'est 54%, est lié à l'inefficacité. Donc, ça fait un peu plus de 70%, on va le voir. En gros, avec tous les rationnels, on a une chance, parfois une chance sur deux, de se planter, quoi. Donc, dire aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'essai clinique, c'est hyper dangereux, en fait. Vous allez voir qu'en fait, ça veut dire que c'est un effet, on a une chance sur deux. Ça, c'est un rapport de l'industrie. Clinical Development Success Rate de 2006 à 2015. 58% en moyenne, la probabilité de succès est de 58%. Un peu plus d'une chance sur deux. Alors, bien sûr, en hématologie, c'est 75%, dans les infectieux, presque trois quarts. Et puis, en oncologie, c'est 40%. Et en fait, voilà, c'est pas. Est-ce qu'on accepte l'idée que bah, sans essais cliniques, qu'est-ce qui se passerait en fait? Bah, on aurait des mécanismes et ouais, on aurait donc un taux de succès de 100%. On a tout un marché, c'est génial. Mais avec un taux d'erreur qui serait énorme, en fait. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, l'histoire des essais cliniques. Ce que Bruno a rappelé. Il faut fonctionner, il faut décider, il faut normer. On peut pas laisser passer, on a un filet, on peut discuter de la maille du filet, mais on laisse pas passer d'où sur le marché. Parce que c'est remboursé, etc. Puis c'est aussi rationnel, hein. C'est pas que des considérations économiques. Alors, le BM, pour moi, le BM+, plus, c'est les violents, en fait. C'est un peu ce qu'on fait, en fait. Contrairement à ce qu'ils disent, bah, la plupart des recommandations de pratique ne sont pas fondées sur du grade A. Grade A, entendu, essai randomisé, et bêta analyse d'essai randomisé. En cardiologie, contrairement aux apparences, 90% des recommandations, c'est grade B, grade C, avis d'expert. En pneumologie, vous dites, vous avez des chiffres, hein, le tableau du milieu. Bon, ça va entre 8 et 18%. La médecine est fondée 80% sur du grade B, du grade C et l'avis d'expert. Pas S6. Donc, peut-être que c'est le BM version 3 siècles. Ouais, on a la meilleure preuve disponible du moment, c'est un grade B, on la prend. Ça, c'est le BM. Mais ça ne veut pas dire que c'est les essais cliniques qui dominent. Enfin, je sais pas où vous voyez ça, quoi. Et prenez le temps, regardez l'augmentation. Le grade A, c'est 10%. Si une discipline vous dit dans la lombalgie, il y a 100 mesures, ben, il y en a 10 qui sont de grade A, 10%, et 90%, c'est. Non, c'est pas rien, c'est observationnel, mécanistique. Quand on dit avis d'expert, c'est quoi? C'est expérientiel, et puis croyance, mécaniste, voilà. Bon, donc voilà, je sais pas où ils ont vu que le BM était. Enfin, que la médecine était fondée sur les grades A. Mais peut-être que c'est quand même le BM comme c'est pensé avec le 3 certains, donc je dis pas. Donc, vous voyez, il y a déjà des confusions. Alors, je vais prendre l'exemple de la surrogacy. C'est un terme pour dire tous les critères intermédiaires. Bah, je suis désolé, notre médecine est fondée sur la pression artérielle, sur les cibles de cholestérol, sur les cibles de glycémie, sur la taille des tumeurs, sur la créatinémie, avec la mesure des différents DFG, l'endocytométrie osseuse, mesurer des plaques d'athérome, la fraction BG. Excusez-moi, ça, c'est pas du mécanisme, hein, ou de la biologie, ou de la physiopathologie. Ça, c'est la pratique, voilà, les critères biologiques, le VVS, voilà, c'est notre pratique de tous les jours. Enfin, voilà, c'est leur recommandation, elles sont basées là-dessus. Donc, la médecine est fondée sur des études mécanistiques. Pas sur des essais randomisés. Un papier qui va sortir par notre équipe qui est super intéressant. La HAS recommande 67 dépistages en France. Donc, je fais un peu du dévoilement, mais c'est pas un papier de Pierre-Yves Meunier et Laurent Lutriard, qui devrait être publié. Ils ont analysé tous les dépistages demandés par la HAS. Il y en a 67. Il n'y a pas que les cancers, hein. 67, vous n'étiez même pas au courant qu'il fallait faire tout ça. Bah, combien sont validés par des essais cliniques? 2. Il y a même des mots. Je vous le dis, c'est vraiment trop intéressant. Le glaucome, il faut dépister le glaucome. Hein. Vous savez, qui dépiste le glaucome? Là où je n'ai pas la recommandation, je pense que. Pourtant, c'est avis d'expert. Hein. C'est, alors, qu'est-ce qu'ils disent dans les textes? Ils disent, il y a quelqu'un qui dit, mais vous savez, cher collègue, il n'y a pas de données probantes pour dépister le glaucome. La réponse est, et alors? Oui, enfin, si vous pensez aujourd'hui que, autour d'une table, on dit, où sont les données probantes et puis on fait rien, ça, c'est un mythe. Je ne sais pas qui vous a mis ça dans la tête. Tout le monde pense que le BM, c'est des ayatollahs, ils font de la médecine sur le grade A. C'est n'importe quoi, c'est un fantasme, c'est la confiance. C'est, on projette des choses sur un truc qui n'existe pas. Est-ce que vous dépistez les sténoses artérielles du membre inférieur à la carotidienne? Soyez pas l'état de jugement. Voilà. 1, 2, 3, 4. Ben non, ben merci, allez, un peu plus diabétique. Vous avez vu des preuves de qui fallait faire ça? Qui c'est qui bat la thyroïde en consultation? À quelqu'un qui a ça? Quelqu'un qui est asymptomatique. Quelqu'un qui vient, hein, monsieur Martin, qui vient parce qu'il a, il a mal au ventre. Et comme on nous a appris, il faut faire l'examen clinique, c'est important. Et qui c'est qui bat la thyroïde? Qu'est-ce que vous faites quand vous battez la thyroïde? Vous faites un dépistage de cancer de la thyroïde, en fait. Et vous savez même pas, mais vous entraînez. C'est important parce que vous cherchez un truc, et en fait, mais où vous allez, il fallait faire ça. Ah, vous pouvez le faire, oui. Bon. Le dépistage de la thyroïde n'est pas recommandé. Le dépistage de cancer de l'ovaire, c'était logique de le faire, on verra après. Il y a eu un essai qui a montré que non, c'est dangereux, on ne le fait pas, on ne le fait pas. Le contrôle du rythme dans l'ACFA, je pourrais vous le dire, il y a un autre exemple, j'ai des milliers d'exemples, je vais peut-être avancer, pour pas miner, j'ai centaines d'exemples. Donc l'homéopathie et la prière, à côté, je trouve que c'est des exemples tellement. Prenons des exemples réels. Vitamine D dans l'archétisme. Donnez des gouttes à votre enfant.
Oui.
Ah, il a raison. C'est peut-être grâce à ça qu'il n'a plus de rachitisme. Continuons. Mais ça, c'est mécanistique. Il n'y a jamais eu de cycle d'écran atomisé, vous rien fallait faire ça. Enfin, c'est mécaniste et historique. L'antibiotique dans l'urine. Alors, on parle d'une langue. Lui, il y a du rythme du rhumatisme actif et mon complication. C'est marqué noir sur blanc. Ou vous avez vu que ça se passe sur un essai randomisé, puis dire, ah, vous voyez, quand on donne un antibiotique, il y a moins de RA. Mais c'est n'importe quoi, c'est historique. Prasad, Binet Prasad, il a fait un papier en 2014 qui dit, mais pourquoi on continue d'adopter ces traitements sur les bases de la pathophysiologie? Donc, en fait, c'est plutôt ça, la réalité. C'est pas pourquoi on continue à faire que des essais cliniques randomisés. Enfin, c'est pas vrai. Et puis, je vais vous donner un petit exemple. Vous pensez que les paliers 2 sont antalgiques? Dans votre présentation, c'est super intéressant. Les paliers 1, paliers 2, paliers 3. D'ailleurs, Bruno va arriver à morphine par rapport au paracétamol. Je suis sûr que si on faisait une étude, vous seriez toutes à vous dire, mais la morphine, c'est plus efficace que le palier 1, c'est du palier 3, hein, c'est puissant. Eh bien, vous allez voir, les essais cliniques randomisés, ils ne disent pas ça. C'est une construction. Ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. Ça veut dire que ce n'est pas forcément plus fort qu'un palier 1. Il y a des études dans la colique néphrétique, douleur de colique néphrétique, AINS fait mieux que morphine. Et diagnostiquement, j'en ai. Vous voyez, en fait, en gros, se baser sur le mécanisme pour dire ce que je vais faire, c'est mieux que ça. C'est un peu arrogant, en fait. Allez, que c'est mon domaine, la prévention cardiovasculaire, on va y passer un peu de temps. Je vous ai dit, je vais être long, hein. Bon, j'avance. Alors, traitement hormonal substitutif, bah oui, dans les années 80, toutes les femmes ménopausées, hormonal substitutif, parce que ça réduisait dans les études observationnelles. Et il y avait des arguments mécanistiques qui disaient que, bah oui, les œstrogènes, etc. Et donc, on a traité plein de femmes avec des traitements hormonaux substitutifs. Bah voilà, vous connaissez la suite, ça a été réfuté. Le stress oxydatif, on n'entend plus parler. Et il y a une époque, c'était la mode. Vitamine E, bêta-carotène, on fait des essais randomisés. Mais là, ça marche pas. Bah oui, après, tout va faire. Les cibles de cholestérol en prévention primaire, c'était le sujet de la plénière du Conseil scientifique du CNE. C'est marqué marchement. L'European Society of Cardiology, 2019, il faut atteindre des cibles. Mais on est d'accord qu'il n'y a pas d'essai clinique. On est bien au courant qu'il n'y a pas d'essai clinique. Mais on pense que, sur des arguments mécanistes, le cholestérol égale maladie. Donc, traiter le cholestérol. Allez, on prend la metformine. Parler de déconstruction d'arrêt, c'est quand même un exemple historique. En 70, après que la FDA, vous allez voir, demande des essais cliniques, il y a un grand essai, Gary Marx aussi, l'historien des centres d'écrit, UGDP, et c'est la catastrophe. Alors c'est un essai qui n'est aucun des médicaments antidiabétiques testés à l'époque et ne fonctionne. Donc l'ancêtre de la metformine, c'est la fin formée, ça ne marchait pas. En 1977, il y a GBDF34. Allez. Et qui trouve un résultat spectaculaire dans un essai ouvert, 300 patients. Regardez la spulaire, on n'a jamais eu ça. Le petit P est modifié en voie d'étude, de plein de tests statistiques. Bon, en gros, ça sort. C'est P égale 0,03. Au début, ils disent le P doit être inférieur à 0,01. Et en cours d'étude, ils disent, bah non, on va prendre 0,05. Et puis c'est 0,03. Et qu'est-ce qui s'est passé? Une croyance, comme Bruno l'a dit, il y avait une méthode, il y avait une croyance partagée par la communauté internationale. Alors, pour une fois, je suis pas complotiste parce que, quand on a tort face à tout le monde, il faut s'interroger quand même. Mais là, je me dis, non, mais quand même, il y a un problème dans la croyance. La communauté mondiale a vu dans les KPDS-34 un résultat probant. On va en parler avec Agnès. On a vu un résultat probant. Mais qui a décidé que c'était probant? Et pourquoi on a vu le résultat probant? C'est ça qu'il faut poser comme question. Qui décide qu'est-ce qui est probant? Bon, vous connaissez la suite. En 2012, on fait la synthèse disponible. Il n'y a rien qui sort. On est bien embêté parce que c'est quand même le traitement de référence, ça coûte pas cher. Ça baisse les bons domaines indiqués. Mais ça réduit pas les complications. Enfin, on n'en sait rien, en fait. On ne sait pas, les études sont pas très solides. Il faudrait refaire. Mais qu'est-ce que ça a comme conséquence terrible si on n'a plus le droit de faire d'essais sans metformine? Puisque c'est le traitement de référence. La science est tellement forte que c'est pas éthique. Et aujourd'hui, les médicaments doivent se préparer à la metformine et on ne saura jamais. Et les glyphosines qui arrivent et les nouveaux médicaments qui vont arriver et qui vont remplacer la metformine, parce que j'annonce depuis ces résultats, je vous annonce la fin de la metformine. Comme je suis jeune, je verrai la fin de la metformine, moi aussi, pour des raisons qui sont pas bonnes, qui sont qu'il y aura des médicaments qui vont prendre la place, il y aura des robots qui vont arriver et qui vont dire, ah, non, mais la metformine, maintenant tout le monde sait que c'est n'importe quoi. Enfin, vous savez, maintenant vous savez. C'est ahurissant. En termes d'histoire de la médecine, je pense que c'est un super exemple. Parce que, en fait, ça a bloqué l'évaluation. Ça a bloqué, ça a figé une croyance. Alors qu'il suffisait de dire, c'est le meilleur traitement qu'on a. Mais on n'en sait rien. Et là, on aurait pu avancer. Vous voyez? Et ça, là, je pense que on a fait une erreur épistémologique historique. La metformine, ce sera un, voilà. Parce qu'on ne sait pas, on n'en saura jamais, hein. Peut-être qu'on a bien fait, on ne saura jamais. Alors, diabète de type 2, c'est pareil, c'est un mécanisme parfait et observationnel. Il y a une corrélation entre l'HbA1c et les complications diabétiques, mais c'est évident, mais oui, ça, c'est un fait, on ne va pas réfuter ça. Et que la glycémie chronique, ça abîme les artères, mais on est bien d'accord. Enfin, oh, c'est un peu logique, quoi. J'imagine que même s'il y a plein de produits dans le sang, je viens de croire que tout ce qui est augmenté. Bon, et ben, voilà, donc du coup, ben, ça justifie, puisque, vous voyez le raisonnement, puisque l'HbA1c est un facteur de risque. Finalement, bah, l'erreur basique, c'est de dire, bah, je 6 décembre, je soigne des 2007, un cohort, vous connaissez le résultat, deux groupes intensifs, on vit 6%, voyez, dans ce modèle-là, et puis versus 7%, 7-8%, et puis vous avez plus de morts dans un groupe traité intensivement. Voilà, c'est un méga exemple dans l'humain, c'est en fait ça. Quand vous avez ça devant les yeux, vous dites, mais je crois pas à vos théories, je m'en fiche. C'est bien qu'il y ait de la biologie, mais moi, je vais pas me traiter sur des idées biologiques. Vous allez voir que dans l'histoire de la médecine, c'est hyper important. Pourquoi les médecins ont pu laisser tout? Ça va leur donner un certain pouvoir. Voilà, donc voilà, c'est des exemples. Alors voilà, quel formidable médicament qui baisse de 20% l'HbA1c. J'ai enlevé le nom. J'ai la publication en bas, mais j'ai enlevé le nom exprès. Allez, tentez qu'on va.
Félicité.
Comment?
Glitazone.
Glitazone, non. Pas Vuorex.
Ah.
Ça marche très bien. Non, mais ça marche très bien. 1% d'hémoglobine qui a, mais c'est vrai. En plus, ça a laissé abandonner, donc je vous dis, grand mieux. Bon. Alors, en pratique, la réalité aussi des faits, bah, c'est que 11% en moyenne a montré, voilà ce que je vous disais, on parle de 10% pour les recommandations de GRAPPA, et puis c'est assez cohérent avec les études qui sont faites pour dire que, grosso modo, dans les thérapeutiques qui existent aujourd'hui, bon, sur le marché, mais peut-être pas que les médicaments, hein, 11% ont démontré un bénéfice de façon assez solide. On peut étendre à 24%, probablement, c'est là. On va de 11 à 30%. C'est intéressant d'avoir cette idée-là. Ça permet de. Vous savez, je suis celui qui parle du temps gagné, souvent, et du space-fond. Voilà, le space-fond, les douleurs des règles, ça jamais été évalué. Bon, ça marche peut-être. Puis, c'est pas si beau. Mais en tout cas, c'est pas, on ne peut pas dire que ça tout démontre. Le temps gagné, c'est très drôle parce que c'est une truc franco-français. L'opium aussi. Alors là, scoop. L'opium a été évalué chez des sujets jeunes pour des douleurs dentaires. Et maintenant, c'est bingo, on a presque tout le temps avalé. L'opium, c'est robot français. Il y a de la France. On a des champions, on a un médicament que les autres ne veulent pas. Ça réfléchit à pourquoi. Il y a que nous qui avons un formidable médicament. J'ai demandé à Pierre Cochin, à la transparence, à la présidente de la transparence, de me dire pourquoi. Il me dit, bah, c'est compliqué. Il faut demander les données, mais si tu vas en parler. Voilà. Bon, c'est une histoire à creuser, quoi. Alors, dans la Covid, bah oui, des décisions, elles ont été prises en l'absence d'essais cliniques. Bah, bien sûr, et c'est bien compréhensible, il fallait bien prendre des décisions. C'est pas ça qu'il faut attaquer. C'est que quand il n'y a pas il faut, voilà, nous, on prend des décisions, on a certitude tout le temps, c'est notre métier. Donc, oui, je vais pas. Et donc, dans la Covid, bah, il fallait bien garder quelque chose. Et c'est toujours un rapport bénéfice-risque, mais plutôt qu'on ne les évalue pas, on n'en sait rien, voilà, on prend des décisions, et on peut se tromper. Voilà, il faut aussi accepter qu'on peut se tromper. Alors, on pouvait quand même évaluer, on pouvait quand même débuter des essais pour pragmatique, on pouvait faire des choses quand même. Ça a été fait. Alors, la pandémie, pour moi, elle a plutôt révélé l'insuffisance des études mécanistiques et observationnelles à y pouvoir éclairer les décisions. Parce que franchement, je sais pas si vous avez lu la littérature, mais c'est le bins complet. Dans la Covid, on n'a rien compris. Hein. Enfin, on ne sait pas, il y a des milliers de publications, les impact factors, je ne sais pas ce qui s'est passé. Voilà, donc du coup, j'adore prendre cet exemple. Il y a eu, pour la fois, il y a eu 100 médicaments évalués dans la Covid. On a pris toutes les molécules qui existaient, on a testé dans tous les sens parce qu'il y avait un tir rationnel. Peut-être pour le coup, ça donne raison aux EBE+, mais en fait, ils ont, à part les vaccins, au départ, parce que les rappels, on ne sait pas trop. Mais au départ, les vaccins, le Paxlovid chez les sujets non vaccinés, les glucocorticoïdes dans la réanimation, à part ces quelques médicaments-là, ou peut-être le remdesivir, enfin, il faut, enfin, c'est pas de Covid, des autres, ils ont échoué. La chloroquine, c'est le meilleur exemple, l'ivermectine, enfin, je vais pas tout les citer. En fait, s'il n'y avait pas eu des essais randomisés, chacun avait le droit de dire, moi, sur la base des études in vitro et ce que je vois, et là, je vais critiquer un peu Bruno, parce que c'est ce qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit, mais moi, je vois bien que les patients, ils vont mieux. Bah, Didier Raoult, il disait la même chose. Il dit, mais moi, il dit, je vois bien que les gens, ils vont mieux. Donc, faites-moi confiance. Il a écrit un papier, hein, en dehors de l'église des essais randomisés, point de salut, et il dit, bah, dans les rangs des essais randomisés, ils sont pas pertinents dans les maladies infectieuses. Et moi, je vois. Enfin, peut-être. Il avait peut-être raison. Dans le moment où il n'y avait pas d'essais, voilà, peut-être qu'il avait raison. J'ai l'impression qu'il y avait une controverse. On l'oublie, c'est qu'au départ, il n'y avait rien. L'erreur de dire à Raoult, de pas avoir dit, je fais des essais randomisés. Il a dit, bah, on sait pas, et ben, on va faire ça proprement. Voilà, c'est tout. On aurait fait des essais randomisés, ben, on a fait le résultat. Il y a une augmentation de la mortalité de 11%. On était à l'église, bon, en gros, ça marche pas très bien. Et puis, ça serait plutôt toxique si on l'utilise. Bon, bah, oui, c'est un vieux médicament. C'est pas parce qu'il a été utilisé dans le passé, dans la logistre, qu'on peut l'utiliser. Voilà, c'est aussi, c'est la pharmacologie clinique. Enfin, c'est quand même étonnant qu'en 2023, on soit obligé de rappeler des. Voilà, vous voyez, dans cette palette de déconstruction, pourquoi je prends le temps de vous montrer tout ça? Parce que j'ai l'impression que si vous n'avez pas l'histoire d'où on vient, ben on va déconstruire, mais on va peut-être perdre plus ou pas au passage. Donc, prenons bien conscience de tout ce qui se joue. Voilà, donc on y va, on avance, la suite, ça va aller un peu plus vite. Bon, ils font une erreur, pour moi, qui est un peu logique. Il faut pas confondre la causalité, ça, Bodo l'a dit, avec le cancer du poumon et le tabac, de l'efficacité de l'intervention. Il y a deux logiques qu'il faut jamais mettre ensemble et qui sont de la confusion. La logique de recherche, des chercheurs, logique de découverte. Voilà, et là, on a des probabilité, et Fisher l'a dit, Fisher, il peut typer la tête de signification statistique, il n'y a pas de seuil, c'est une probabilité, et une probabilité, elle n'est pas dichotomique. Si je me dis, vous avez une chance sur deux, une chance sur trois, une chance sur quatre, il y en a qui vont dire, bah, moi, je suis d'accord avec une chance sur deux, d'autres, enfin, il n'y a pas les nombres ne donnent pas la valeur décisionnelle. Voilà, c'est évident. C'est ne pas perdre en vue cette logique. La causalité, ça ne veut pas dire que l'intervention est efficace. C'est pas parce que c'est causal qu'on n'a pas besoin d'essais cliniques randomisés. Les cancers tuent. Mais le raisonnement qui est actuellement fait, c'est que le cancer tue. Donc, sont des pistes. Et tu vois. Enfin, vous voyez, la science, c'est aussi toujours le contre-intuitif. Oui, c'est ça aussi qu'il faut comprendre dans l'histoire des sciences. C'est que la science, elle vient parfois souvent tromper nos sens et en fait nos propres biais cognitifs. On en parlera tout à l'heure dans la méthode. Bon, en fait, en gros, si mon dépistage et mon intervention, ils entraînent une mortalité par une autre origine, ben, c'est évident que ça marche pas. Mais c'est évident, enfin, quand on met il y a la causalité et il y a la transférabilité dans la vraie vie et l'expérimentation chez les humains, c'est déjà plus proche quand même que l'animal, etc. Donc, il faut regarder, mais sinon, toutes les interventions de santé publique, il faut tester, sinon, voilà, c'est évident, enfin, c'est du bon sens, mais on l'oublie normalement. Quand vous avez la campagne de dépistage, c'est vraiment pas basé sur, c'est basé sur un mécanisme, le cancer tue, donc je dépiste, et c'est bon. C'est vrai. Donc, l'essai clinique randomisé, c'est un test expérimental, c'est un test d'hypothèse, de l'efficacité d'une intervention. Alors, c'est un, on dit que c'est un attachement de traitement, ça veut dire que c'est en vie réelle. En fait, ça vient tester aussi l'intervention avec ses problèmes, avec ses risques. Et voilà, il y a quelque chose de c'est pas la vraie vie, évidemment, mais on s'y approche plus. Les philosophes parlent d'expériences cruciales. Alors ça a été critiqué par un philosophe qui s'appelle Pierre Duhem au début du siècle en physique. Mais en fait, c'est une sorte, pour médecine, d'expérience cruciale qui capture l'ensemble de tous les mécanismes. En fait, Fischer, il le dit très bien. Hein. En fait, on n'en sait rien, les mécanismes. Enfin, je sais que dans le métier, si on veut avancer et décider, et avancer, ben, en fait, on fait des expérimentations où, justement, les mécanismes, ben, ils sont plus tellement, voilà, on sait pas trop, mais en fait, c'est pas la même logique, mais c'est pas que de comprendre, en fait. C'est d'agir. On va en parler. Alors, j'ai ces gens qui participent, bien sûr, comme toutes les études, après, à construire la théorie, bien sûr. Une fois qu'ils ont été publiés, quand vous allez rester positif ou négatif, eh bien, ça vient corroborer ou réfuter une théorie, et donc faire vivre le modèle des hypothèses, etc. Donc, en fait, les essais cliniques, voilà, c'est la méthode scientifique au sens pragmatique. On n'est pas en météo, on n'est pas dans le climat, on peut expérimenter, donc c'est vraiment cette logique-là qui vous le rend. Alors, mais je dis même mieux, les techniques qui permettent de décider. Vous allez voir qu'il a été pensé pour ça. Il peut mesurer mieux que les autres le bénéfice net, si on donne les bons critères. Il peut mesurer la quantité d'effets. Ça aussi, c'est un paramètre qui est important, la quantité. Et puis, c'est une preuve qui plus directe quand elle concerne la population cible. C'est-à-dire, on essaie de limiter, de définir une population pour laquelle, bah, ça se discute, hein, bien sûr, il y a pas de, elle est moins extrapolée. Bon, c'est oublié, c'est des, donc, il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Alors, l'ECR permet de fonctionner. Voilà. Donc, je me dépêche parce que il reste combien de temps, en fait? Bon, dis-moi. J'avais dit 45 minutes, donc j'avais dit, je prends le temps.
Il est moins 10. Midi
Comment?
moins 10, là, actuellement.
Moins de 10?
Ouais, midi moins 10. Donc, normalement, il faudrait programmer dans 10 minutes.
Ouais. Bon, bah, allez, je vais accélérer. L'histoire de l'essai clinique, il faut repartir non pas avec Claude Bernard. Il faut d'abord, et j'aime bien rappeler que ça vient de Mesmer. C'est Jamel Stenger qui le dit très bien dans un petit bouquin qui s'appelle Médecins et sorciers, que je vous conseille. Donc, l'essai clinique ne mesure pas qu'une corrélation. C'est la méthode expérimentale, la méthode comparative. Et en fait, quand la commission du roi Louis XVI, en 1784, va évaluer le mesmérisme, le magnétisme animal, il fait une expérience un peu comparative, en fait. Et en plus, à l'époque, avec un dispositif qui va se rapprocher du double aveugle, avant la randomisation. Et ça va être important, ça. Voilà, donc ça commence un petit peu là, fin du XVIIIe siècle. Bien sûr, Claude Bernard, il y a le mécanisme Vozo, mais lui, il a aussi inventé la méthode. Et il a dit, mais il a écrit, noir sur blanc, la méthode comparative. Un médecin qui essaye un traitement, enfin, vous connaissez cette phrase dans l'introduction de la médecine expérimentale, mais c'est l'idée qu'il faut comparer, en fait. Mais ça, comment les philosophes des sciences peuvent avoir oublié qu'il faut comparer? Enfin, chez les humains. On a eu Pierre-Charles-Alexandre Roumi, quand même, avec la méthode numérique en France, quand même, c'est hyper important. Il va réfuter l'apportation de Sansu à Paris par Brousset. Enfin, c'est passionnant comme histoire. Brousset, qui avait une théorie, qui avait des théories mécanistiques. C'était les humeurs. Et que, avec des Sansu, on allait peut-être réguler les humeurs en hippocratique, je sais pas. Et c'était un grand médecin, Brousset. C'est pas n'importe qui. John Stuart Mill, c'est la théorie de différence. Il va conceptualiser la méthode de différence, la causalité comme qui fait une différence. Ça fera écho à l'analyse contrefactuelle en statistique, on dira. Fisher, la randomisation, et puis j'arrive à Neyman, parce que pour moi c'est capital. Et ben Neyman, qu'est-ce qu'il propose? Il propose de décider, en fait. Il dit, ben, la méthode, en fait, c'est simple. On va décider. Il nous faut, voilà, il prend un exemple de chef d'entreprise. Oui, il prend, j'ai un échantillon, je veux dire si c'est de la qualité ou pas. Si je dois décider, il faut que je pose mes critères a priori. C'est ça la méthode scientifique, pour éviter de me tromper dans mes propres biais. Et puis, une fois que j'ai décidé mes a priori, je fixe un set de décision. Parce que c'est la logique de décision. La logique de recherche, je n'ai pas besoin de seuil. Ça dépend. Mais si je dois dire, je fais ou je fais pas. Eh ben, vous allez voir, c'est très important. Bradford Hill, ben, évidemment, il a importé tout ça en médecine, En 1962, c'est ça l'amendement qui est fait ouvert à la logique de la régulation. Et voilà, il faut que les médicaments démontrent un effet dans les essais cliniques randomisés. Bon, c'est quand même 60 ans. On est 30 ans avant l'UBM, là. Enfin, l'UBM, c'est pour moi, c'est sympathique. Mais ils ont juste formalisé des choses que tout ça, ça avait été bien pensé. Enfin, en gros, c'est 30 ans après, hein, l'UBM. Voilà. Donc, l'essai de confirmation, on parlera. J'aime bien rappeler qu'aujourd'hui, le prix Nobel de médecine est accordé à, non, c'est pas de médecine, à Esther Duflo, économiste, pour avoir fait des essais randomisés en économie. Aucun médecin n'a eu le prix Nobel pour la randomisation et pour les essais cliniques, qui a révolutionné, et à mon avis, qui a permis beaucoup de qualité, enfin, on peut en discuter, mais quand même, il y a peu de disciplines qui ont développé une méthode d'évaluation de ces pratiques de façon aussi rigoureuse que la médecine. Ça, je pense qu'il faut quand même réaliser que, alors, aidé par l'industrie, il y avait des enjeux financiers, il y avait des enjeux de régulation, il y avait des enjeux de pouvoir. Moi, je dis souvent que l'essai clinique, pourquoi les médecins ils se sont précipités là-dessus? Parce qu'on est sorti du laboratoire de Claude Bernard, justement, et de Pasteur. En fait, le pouvoir a été redonné aux cliniciens et aux statisticiens. Parce qu'en fait, pour décider, on s'est dit, non, on sait pas, d'ailleurs, ce qu'on va trouver la réponse. Et du coup, voilà, les médecins sont, alors pas tous, parce que finalement, les méthodologistes, comme disait Hervé, ont repris aussi le flambeau, et donc les cliniciens s'y sont opposés, enfin, c'est compliqué. Voilà, en tout cas, voilà, Esther Duflo, elle a donné le prix Nobel d'économie, pour avoir des études en économie qui sont divisées. Alors, pareil, qu'est-ce que la notion d'efficacité, elle est complexe, mais on pourrait en débattre. Efficace, ça veut dire deux poids. Qu'est-ce qui est efficace? Sur quels critères? Chez qui? Par rapport à quoi? De combien? Etc. Mais vous voyez bien que le mécanisme va pas pouvoir, ils essaient d'évaluer l'intérêt. Alors, on peut en discuter aussi, ça dépend des critères, hein, d'un traitement en moyenne. Mais qu'est-ce que les études mécanistiques peuvent me dire de ce concept-là, en fait? Je vois pas bien où ils veulent en venir, quoi. Donc, j'en fais une erreur. Et ça, je l'écris en réponse à... Dans la causalité, c'est pas que les deux points de Frédéric Carbusso et John Williamson, c'est pas que la corrélation et le mécanisme, c'est la spécificité. C'est de dire que ma différence que j'observe, elle n'est pas liée, c'est pas un faux positif. Alors ça, si je vous demande un peu d'attention, on l'oublie beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est pas que la randomisation compte. C'est le risque de biais. Donc, c'est le double insu. Le triple insu, même, si c'est possible. C'est l'éthique. C'est la gestion de l'éthique. En fait, c'est pas l'essai randomisé qui doit être remunéré, parce que l'essai randomisé de mauvaise qualité, il est trompeur. C'est l'essai randomisé qui a pour but de dire la différence, elle est spécifique. Et la spécificité, si vous raisonnez en termes de diagnostic, vous savez, les tests spécifiques, c'est un test où la spécificité, elle est à 1 quand les faux positifs sont à 0. Donc, il y a bien un troisième point, et certains philosophes l'ont vu, ils disent, mais non, il y a un troisième point, c'est là. Devant une corrélation, il y a les mécanismes, mais il y a la spécificité du lien causal, en fait. Et ça, c'est l'essai clinique qui permet de le faire. Et aucune autre étude, et c'est pas l'iceberg de dessous qui va répondre à ce problème-là. C'est pas le big data qui va répondre à ces problèmes-là. Ça, vraiment, c'est mon point de vue, là, peut-être que je me trompe, on verra à l'avenir. Vous pouvez lancer un dé biaisé 1 million de fois, il vous donne un chiffre faux. Donc le big data. S'il n'y a pas la qualité, pour moi, on va avoir des surprises. Alors peut-être, ça c'est des vrais débats de philosophes et de statisticiens, mathématiques, etc. Est-ce que la quantité, le nombre, finir, il y a un peu cette croyance-là, hein. Le big data va tout gérer, quoi. On va voir comment, voilà, le rôle du placebo, on va en parler deux secondes, mais allez, Bruno l'a cité, le paracétamol dans la lombalgie, ben voilà, on forme 1000 patients, on les suit tous les jours pendant je sais pas combien de temps, ben ça marche pas, hein. Enfin, plus qu'un placebo. Ça veut peut-être dire que ça fonctionne, hein, les patients sont soulagés. Mais ça, en tout cas, c'est pas une paracétamol qui fait une différence. C'est peut-être le fait d'en prendre. Et bien ça, je vois pas comment le big data Je vois pas comment, on va dire, dans les CNDS, dans les bases de données, que le paracétamol est efficace parce que j'ai des millions de données. Il faudra qu'on m'explique. Tu me diras, mais c'est possible. Ouais. À voir. Tu vois, il y a un vrai débat. Parce que moi, je veux bien, hein, c'est intéressant, mais je vois pas. Pour l'instant, je vois pas. Alors, tout à l'heure, la morphine. L'oxycodone dans l'hémorragie. Les pompales 2023, Lancet. Oh, non, pas possible. L'oxycodone, c'est la morphine. Ça marche pas, et c'est même pire que le placebo. Et là, il essaie, il dit, regardez, il a la qualité des meilleurs essais d'aujourd'hui, donc je peux vous dire qu'il y a même, ils ont viré la multiplicité, les faux positifs. C'est magnifique. Et ils arrivent, attendez, si je voulais pas rentrer, mais on pourrait tout ça, mais franchement, la morphine qui marche pas dans la magie, mais c'est contre-intuitif. Alors ça, on a dit, ça marche. Moi, je crois que ça marche. Il manque un groupe non traité. Et s'il y avait un groupe non traité, peut-être qu'on aurait vu que le fait de prendre, dans un essai, on va tester la morphine, en lui-même soulage, enfin. Vous comprenez ce que je veux dire? Il fallait mesurer l'effet du placebo. De morphine, en plus, d'oxycodone. Peut-être que là, on aurait eu un super résultat et on aurait une démonstration, en fait, que c'est pas l'oxycodone, c'est le fait de prendre l'oxycodone. Bon. Alors, je vais les faire en pratique, hein. Là, vous êtes bien amputé parce que vous dites, ah, bah, non, nous, on n'est pas des homéopathes. Moi, je suis pas du Diaraout, hein. Je fais pas n'importe quoi, hein. Qui c'est qui prescrit pas de paracétamol dans la Lombardie? Prescrit, dit qu'il faut le faire, hein. Donc, faut pas laisser. Bah, j'en pense. J'ai prescrit, hein. J'ai prescrit, hein. Attendez-vous. J'ai prescrit, hein. Formidable. J'ai dépasse. Il faut que je vous détende avec ça. Alors, comment on décide? Je vais avancer. Le BM intégratif, les trois cherches. Ben, en fait, aujourd'hui, on est dans l'EBM intégrative. L'IRAD B, l'IRAD C, les avis d'experts. Enfin, j'ai envie de dire, il y a une SPT ici, mais vous savez que les recommandations à la base d'antibiotiques, est super, hein, c'est un super site, encore une fois, mais les recommandations qui sont dedans, quand on applique des grilles internationales de qualité, il y en a 1% qui est fiable. C'est n'importe quoi, c'est... Pour moi, on est dans le BM comme ça qu'il soit défini, c'est-à-dire le sage. On utilise les meilleures preuves disponibles à un moment donné. Et c'est pour ça qu'on a du grade B et c'est pour ça qu'on a du grade C. On prend, si c'est mis 4 témoins qui est la meilleure, on la prendra et on justifiera. Comme on voulait agir, on avait besoin d'une étude, on va trop bien. Didier Raoult, il avait besoin d'agir. Il a trouvé un truc chinois in vitro, quelques petites études, et puis il s'est dit, bingo, j'ai les meilleures données disponibles au moment où il a commencé à arrêter. Il a fait de l'EBM, en fait, au départ. Et en fait, c'est pas ça que j'aime. Je vais avancer parce que c'est ça qui est intéressant. La question qu'il faut se poser, c'est pas de savoir quelles sont les meilleures preuves disponibles, c'est quelles sont les preuves nécessaires pour que je puisse justifier mon action. Vous voyez? Parce que les preuves disponibles, vous en avez toujours des preuves disponibles. La vie d'expert, au pire, c'est une preuve disponible. Donc vous êtes toujours dans l'EBM. En fait, c'est pour ça que je vous dis qu'on est dans l'EBM aujourd'hui. Mais l'EBM version seuil, et qui est un peu, vous allez voir, très, très lié à la régulation, il y a un seuil. Je dis pas que tout est évident. Je dis pas que tout est preuve. Voilà. Je suis pas dans le relativisme. Je dis pas tout est bon, du moment que tout le monde est content. Non, je dis, mais non, c'est pas comme ça qu'on va avancer. J'essaie de définir, a priori, qu'est-ce que c'est qu'une évidence et qu'est-ce que ça n'est pas. Pour faire d'évidence belle, tu sais, il faut définir le E. Sinon, si c'est tout, c'est un métier, non, c'est pas évident, belle. Parce qu'en fait, la recherche, elle produit des données continues, de qualité continue, alors ta décision, elle implique une catégorisation. Je fais ou je fais pas. Alors, je peux revenir sans cesse sur ma décision, c'est temporel. Mais au moment où je prends mon médicament, je le prends ou je le prends pas. Après, je peux prendre il y aura un jour sur deux. Il y a des taux de cas. Mais vous voyez, la décision est quelque chose de dichotomique. Et donc, la question, c'est quel est le seuil suffisamment probant pour décider de prescrire. Alors, un petit test, parce que j'accélère, je vais vous faire le test. Je suis pilote d'un avion. Bienvenue, mesdames et messieurs, à bord de Airbus Nous demandons l'avion. Nous sommes prêts à décoller. La météo, tout va bien. Mon copine m'indique que quatre voyants rouges qui s'allument. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est un bon. C'est l'eau d'un litige. Je pense, c'est évident. C'est pas très. Voilà. Est-ce que vous voulez prendre l'avion avec moi? Vous pouvez sortir et on prend l'avion avec moi. Mesdames et messieurs, j'estime. Qui prend l'avion avec moi? Avec quatre voyants rouges qui s'allument.
Moi, je crois très fort en vous. C'est prendre ma croyance sur la personne.
D'accord, donc tu restes avec moi. Merci. Et vous restez tous dans l'avion? Levez la main, fait, vous le jeu. Ben, ça dépend, si y a le feu dans le lit, vous allez prendre l'avion par la main. En gros, voilà ce qui se passe avec la locality evidence, avec l'IMDIA. On dit qu'il y a des preuves, mais de très mauvais esprit. Je ne sais pas ce que c'est. C'est comme dans une analyse, on met des fruits, on mélange des fruits, puis on prend des fruits pourris, puis on dit, bah, c'est bizarre, je mélange des fruits, c'est pas bon. Bah. Essayez de prendre conscience de ce problème. Qu'est-ce que c'est qu'une preuve de mauvaise qualité? Le criminel, on a la preuve que c'est lui, mais c'est très mauvaise qualité. Je ne vous dis pas le jugement, vous êtes en voie, c'est quoi. Franchement, c'est pas vous qui prenez le médicament, mais le patient, s'il savait que c'est du voyant rouge et du mélotard, il faudrait faire l'étude. Après, il faudrait faire l'étude. Peut-être qu'il n'y a pas confiance. Docteur, qu'est-ce que vous feriez? Vous tournez les mains là. Et hop, vous l'embarquez. Peut-être. Mais est-ce que, voilà, l'enjeu, il est là, je réponds à Agnès. C'est de définir qu'est-ce qui est probant en amont. Alors, est-ce que vous, pour vous, là, avec des analyses quelconques, le pré-gabéline dans une neuropathie diabétique, ça marche? Ouais. Pas beaucoup, ça en effet, mais c'est de very locality of evidence. C'est probant ou c'est pas probant? Si, c'est probant. Aujourd'hui, ça va les mêmes. Les régulateurs vont considérer que c'était probant. Prescrivez-vous ce médicament? Ça dépend. Le patient, il souffre beaucoup. Comme c'est autorisé, je vais peut-être l'essayer. Voilà. Puis c'est qui décide de faire? Cette patiente qui vient de manger le traitement. Finalement, peut-être que lui, s'il savait, peut-être qu'il pourrait aussi avoir son regard. Enfin, ça va être difficile. Pour nous, c'est compliqué. Alors, comment on va faire pour passer ça? Voilà, donc, cette fois, j'ai formulé un nouveau raisonnement. Moi, pour moi, IFPACF, ça ne va pas. Je vous propose un raisonnement un peu à côté. Bon, d'abord, est-ce que j'ai besoin de preuves pour justifier mon action? Parce que il y a des domaines où je n'ai pas besoin de preuves pour justifier mon action. Quand je serre la main à un patient, quand j'ai une minute, quand je respire, il y a plein de questions qui n'ont pas besoin de preuves. C'est pourquoi j'ai toujours la preuve. Il faut sortir aussi de cette logique. Par contre, quand j'en ai besoin d'une preuve, pour quelle situation? Et si oui, de quelle qualité? Et voilà. Parce qu'en fait, mon problème, c'est de dire, j'ai une preuve pour justifier mon action. Ça veut dire implicitement que si je ne l'ai pas, parce que nous, c'est ça qui est terrible. On dit, j'ai besoin de preuves pour prescrire du paracétamol. Mais quand il n'y a pas de preuve de paracétamol, je prescris quand même du paracétamol. En fait, c'est ça qui est pas logique. Donc, on n'a qu'à dire, j'ai pas besoin de preuves. Et au moins, on sort du débat. Mais on ne dit pas, moi, je suis dans l'UBM, et du coup, quand il n'y a pas un barrage, j'ai fait quand même. Ah non, parce que les valeurs du patient. Ah, on est sauvé, il y a les valeurs du patient. C'est vrai, il les veut, donc on est bon, on est tranquille. Vous voyez, c'est ça qui est pas tout à fait ajusté. Donc, ma preuve, après, on défile. Mais de quoi? De qui? Sur quels critères? Par rapport à quoi? Et puis de combien? On se pose des questions. Mais la première étape, c'est de dire la qualité. Et c'est pour ça que l'essai randomisé, en fait, il apparaît comme une espèce de nœud, vous voyez, qui va permettre de décider, quoi. Alors, je passe par pour elle, parce qu'il reste deux temps, tant pis, je ne vais pas nous voir avec RB. Et puis, donc, pour moi, bien sûr, l'essai clinique est nécessaire, mais pas suffisant, bien sûr, évidemment. Je sais pas comment on peut penser que l'essai clinique est suffisant pour toutes les questions. Voilà, il est parfois impossible, ouais, bien sûr, les problèmes d'argent, ça, c'est un vrai problème. C'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Il faut pas confondre les problèmes de financement, de méthodologie, mais c'est quand même lié. Et c'est vrai que ça, c'est un vrai problème, mais ça ne peut pas tout tester. Moi, ce que je propose, c'est de définir l'essai clinique ne répond pas à toutes les questions, mais pour moi, c'est une étape nécessaire dans un processus de validation qui permet de fonctionner et qui est en fait une fonction un petit peu. Si on est d'accord, si on est tous d'accord avec ça, ben, on s'entend. Et on est un peu dans une objectivité. On peut au moins juger ensemble de ce qu'est-ce que c'est que la vérité, entre guillemets, ou qu'est-ce que la moins pire des décisions à prendre. Donc, c'est une preuve de l'efficacité moyenne, on en a parlé. Attention aux critères orientés patients, c'est mieux qu'un critère intermédiaire. Et puis attention à la question de la population qui est bien sûr concernée. Et les autres études elles sont hyper importantes pour toutes les autres questions. Évidemment, ça ne résout pour moi les cliniques randomisées. Il n'a d'intérêt que pour la mesure d'efficacité moyenne, mais ça ne répond pas à toutes les autres questions. Est-ce que c'est pertinent? Pas forcément. Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est ça qu'il faut mettre en premier? Mais pas du tout. Il répond à une question qui est voilà, je fais mieux qu'un comparateur. Et les autres études, elles sont super importantes. Alors, il y a aussi des, je fais attention à ça, attention aux preuves directes. On a des exemples dans la littérature, l'aspirine, c'est un très bon exemple en prévention cardiovasculaire. Vous avez des démonstrations assez solides en prévention secondaire, et puis les essais en prévention primaire, pour des tas de raisons, ne sont plus concluants aujourd'hui. Donc, en fait, aujourd'hui, en prévention primaire, bénéfice-risque, il devient moins pertinent. Donc, pourtant, il y avait un bon rationnel, hein, mais en plus, il y avait des essais en prévention secondaire, donc on pouvait avoir une vie d'extrapoler chez les patients à bas risque. Donc, attention aussi aux extrapolations qu'on fait, même si c'est des mécanismes très, très solides. Hein. Voilà, donc, quand l'essai clinique est impossible, il faut définir les évidences a priori. On peut souvent, avec des essais pragmatiques, on peut par exemple définir que le minimum serait de faire un essai pragmatique. On peut fixer les critères, mais ce qu'il faut, c'est le faire avant. Parfois, c'est impossible. Actuellement, je vous ai dit que... Alors, du coup, je me suis un peu en répétition. Il y a une variabilité, donc je disais des recommandations. Avec le même verre probant, certains vont boire le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Donc, vous voyez, il faut aussi définir des règles d'interprétation. De qu'est-ce que ça a fait suffisamment probant. Et donc, je demande aussi que quand l'essai clinique randomisé n'est pas possible, eh ben, maintenant, on va faire appel à des études de différentes, mais on va définir les critères de qualité qui permettent de dire qu'elles vont produire un résultat probant. Or, c'est la catastrophe quand vous grattez dans les études observationnelles ou mécanistiques, c'est encore pire. Il risque de biais, ils connaissent pas très bien, la typicité des statistiques, ils connaissent pas, et Florian Naudet, qui est un collègue, ami, en veine, il vient d'écrire un papier pour des études observationnelles, et les registres. Voilà. Le progrès de la médecine, c'est que les essais cliniques sont enregistrés dans des registres pour que le protocole soit connu à l'avance. Bon, voilà, c'est un progrès de transparence et puis de méthode. Alors, les autres études, je vous dis pas, vous n'avez aucune donnée. Donc du coup, pas de souci, allons vers les autres études quand l'essai n'est pas possible. Mais appliquons-lui aussi les critères de qualité pour pouvoir en décider, si on va se baser sur ces études-là. Je vous remercie pour votre attention.
Bref, on a la tête de ses chants.
J'ai dormi.
Non, c'est pas grave.
J'en étais sûr.
C'est pas grave du tout.
Est-ce que voilà, vous avez une question?
Ouais.
Personne. Ah, juste métier. Je me suis mettant une grosse perche, alors, donc j'arrive.
Ouais,
je suis toujours rédactrice en chef de BM France, donc il y a EBM dans EBM France. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire EBM dans EBM France déjà? Juste, je fais très très court, j'essaye. Hein. EBM France, c'est un outil du Collège de la médecine générale qui se met au service des médecins généralistes, des internes de médecine générale pour faire une étape de diffusion et plus ou moins d'adaptation des objets niveau recommandation, niveau guide de pratique clinique. Et donc forcément qu'on fait face à quel est le niveau de ce qu'on transmet. C'est sûr. La manière dont on s'intègre dans l'EBM, c'est de dire qu'on s'intègre dans le système de valeurs eux-mêmes, on se reconnaît dans les trois cercles, et de dire qu'on se met au service de ça. Évidemment, c'est un objet imparfait par essence. Et c'est très intéressant cette discussion. On fera sans doute qu'on les continue ailleurs. Emboliser l'espace des questions à poser par les uns les autres. Moi, je voudrais te gratter sur le niveau que tu proposes de 1, est-ce que j'ai besoin d'une preuve? Voilà, pour justifier mon action, si oui, de quelle qualité, preuve de qui, de quoi, etc. Moi, j'ai déjà envie de gratter sur le 1. J'argumenterais que oui, j'ai besoin de preuves pour justifier mon action en toutes circonstances, et que, il faut qu'on décide, et c'est tout l'objet de ton propos, ça veut dire quoi. Tu es frappé par l'absence, enfin, en tout cas, dans cette présentation qui est forcément brève et c'est normal, l'historiographie des confins de l'histoire. Tu vois, il y a un certain nombre de choses qui se sont construites par l'histoire et qui ont été pas très sûrs à un moment, qui sont très très sûrs maintenant. Et en fait, il y a une dynamique là-dedans aussi. Et là, j'ai envie de me référer à la tour, la science faite, la science en train de se faire, etc. Et te dire que, par exemple, pour le parachute que tu cites comme exemple, en fait, il n'est peut-être pas pertinent de faire un essai contrôlé randomisé sur le parachute aujourd'hui, mais il a été probablement pertinent de concevoir l'objet au moment où on a conçu l'objet, etc. Et il y a une histoire, en fait. Et on ne peut pas, pour moi, s'affranchir de cette histoire-là. Et je pense que dans ton 1, ai-je besoin de preuves pour justifier mon action, il y a probablement un certain nombre de choses, un certain nombre de décisions qui relèvent de l'histoire et de choses qui ne seraient peut-être plus à débattre aujourd'hui avec des nouveaux essais qui reprouvent les trucs qu'on a, sur lesquels on est plutôt dans l'ordre de la science faite. Du coup, je voulais t'entendre un petit peu là-dessus, si, comment ça s'intègre dans ton... Ouais.
Merci de ta question. Oui, ça fait écho au fait que tout à l'heure, avait parlé de l'obsolescence des connaissances. Et bien, moi, ce que je peux vous dire, c'est que tout ce qui est démontré par des essais cliniques randomisés de bonne qualité, ça va rester. Et les statines, elles vont pas être détrônées. Parce qu'il y a tellement de données probantes que là, elles peuvent pas, elles sont en traitement de première intention. Pour les détrôner, il faudra créer un médicament qui se compare à elles. Et donc, qui montre une supériorité ou une meilleure acceptabilité, etc. Donc, en gros, déjà, ça. Donc, tu as raison de dire que historiquement, il y a des données qui sont solides, empiriques, ou basées sur des études, etc. Mais il faut définir lesquelles et pourquoi. C'est là où j'invite les chercheurs. Pourquoi le parachute est un exemple qui ne peut pas être testé? Comme la ceinture de sécurité, voilà, comme certains vaccins. Moi, ça me dérange pas, du moment qu'on le définit, du moment qu'on est dans l'explicite. Tu vois, ce que je trouve important dans notre démarche de chercheur, c'est de faire on prend des décisions, on peut se tromper, on peut être contestable. Mais ce qui est important, c'est de dire pourquoi. Et en disant pourquoi, ben, le parachute, on peut trouver des arguments. Il y a des raisons, il y a des raisons à ça. Voilà, c'est pas une question de, il n'y a pas d'absolutisation. Quand je dis oui, si oui, quelle qualité, ça inclut les études historiques, qu'à témoin, ou même les études pour les masques, par exemple. Et il va y avoir des études mécanistiques très, très, très importantes. Pour la ceinture de sécurité, il y a des crash tests. C'est pas des études, voilà, on part pas de rien, donc tu as raison. Mais on définit. On dit que pour cette situation-là, étant donné tout ça, le niveau de preuve sera suffisant. Mais aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, on interprète comme on veut. Ah, parce que je vous ai pas dit, mais la méthode que je... En fait, pourquoi la science, la démarche scientifique, elle protège des conflits d'intérêts, elle protège un peu, mais elle protège de nos propres biais cognitifs. La méthode, c'est pour nous protéger nous-mêmes, en fait. Il faut avoir cet esprit-là. C'est pas pour... Donc, c'est pour ça qu'il faut la respecter. Elle nous protège de nos propres interprétations à vouloir voir un résultat positif. Et donc, devant les études qui sont fragiles, certains vont voir j'ai pas besoin de preuve, peut-être on a besoin. Donc, tu vois, et en fait, ça crée une variabilité monstre parce qu'en fait, chacun veut voir ce qu'il veut, en fait. Et du coup, t'aboutis à non, moi, je ne crois pas à votre truc. Et on est dans le relativisme. Donc, moi, si on se met autour d'une table et on définit, par exemple, quelle, dans l'activité physique, dans les domaines où l'essai clinique n'a pas grand-chose à dire, eh ben, qu'est-ce qu'il nous fera comme élément probant pour dire, ben voilà, on conseille ça. Tu vois, c'est ça que je sais pas si je réponds bien à ta question, mais l'histoire, oui, bien sûr, ça fait partie des données probantes, historiques.
Hervé. Juste un petit commentaire, parce que j'étais un petit peu surpris quand tu m'as dit qu'il y avait 57 dépistages ou 67.
67.
67 dépistages, alors là, je me dis, moi, j'ai connu la mise en place du dépistage du cancer du sein. Monsieur Kouchner nous commande à l'ANDEM un rapport et nous demande est-ce qu'il est logique de mettre en place le dépistage du cancer du sein. On travaille et on fait un rapport. Et à ce moment-là, il y avait eu des expérimentations au rein et le bas-rein. Donc, on regarde les expérimentations au rein et bas-rein et le rapport répond au vu des expérimentations au rein et bas-rein, compte tenu que moins de la moitié des femmes viennent, compte tenu de ceci, il n'est pas recommandé actuellement de mettre en place le dépistage du cancer du sein sans avoir plus de données. On dit, il faut ça, il faut ça. Monsieur Kouchner prend le rapport et fait une conférence de presse Il mène rapport sous eux. Au vu du rapport de l'ANDEME, j'ai décidé de mettre en place le dépistage du cancer du sein. Personne n'a lu le rapport. D'accord? Aucun journaliste n'a ouvert le rapport qui disait qu'il fallait le mettre en place. Mais j'ai compris aussi, monsieur Kouchner. Je veux dire que face à la pression publique, face à la pression politique, s'il prenait une autre décision, c'est lui qui était mort. Donc, c'est pour ça que c'est assez complexe, ces problèmes de preuve, d'utilisation, ça va avoir un sens aussi, hein, de façon ou d'une autre. Et sur les 5 à 66 autres dépistages, est-ce que tu sais comment ils ont été mis en place? C'est une question que j'arrive, donc je ne veux pas dévoiler, elle n'est pas publiée officiellement, donc c'est vraiment parce que c'est un collègue, mais attendez, ce papier, s'il est publié, il sera publié dans Santé publique, et on en parlera au conseil scientifique, à la plénière du conseil scientifique du congrès du CNE, probablement. Donc en fait, j'ai pas d'informations plus que ça, c'est juste le résultat assez affolant, voilà. Mais tu as raison, mais moi ça me dérange pas que M. Bouchner propose ça. Ce qui me dérange, pour bien comprendre ça, c'est qu'on se réclame de la médecine fondée. Alors qu'on le fait pas. Moi, ça ne m'arrange pas d'être pas dans la médecine fondée sur les preuves. Je vous le dis, j'y suis jamais. J'y suis rarement.
Et le Covid a été tout ça.
Et oui, et ça me, en décision, c'est complexe. Tu as raison. Et il y a d'autres facteurs que les preuves dans la décision. C'est ce que le trois cercles essaye de aussi symboliser. J'entends très bien. Mais moi, ce qui me gêne, c'est quand on prétend dire, ah, mais nous, c'est solide, quoi. Et eux, c'est pas solide. Non, c'est plus compliqué que ça. Parce que quand on fait, je le vois tous les jours sur X, Twitter, les croyants disent, oui, il y a des études observationnelles qui montrent. Mais non, c'est une étude observationnelle. Elle ne montre rien. Parce qu'après, ils vont utiliser les mêmes arguments pour dire, ah, mais eux, là, ici, tu mets une étude observationnelle. Mais en fait, il y a deux poids, deux mesures, en fait. C'est ça que je critique. Moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas décider. Il y a des décideurs, heureusement, qui sont là. Moi, je ne dis pas ce qu'il faut faire. Je dis simplement un peu plus de transparence dans le raisonnement et d'explicite. Voilà. Et de dire, là, je ne fais pas de la médecine fondée. Je propose un dépistage pour X ou X raisons. Et madame, merci beaucoup. Et ça m'a éclairé, mais ou pas, en fait. Ça m'a pas éclairé. Quand un patient dit, docteur, imaginez, en soins, vous dites du paracétamol, c'est Vorelodi, ça, qui fait une étude décide. Quand on va montrer les aides à la décision, faut d'abord demander est-ce que vous voulez savoir. Parce que si la patiente ou le patient ne veut pas savoir les données probantes, quand son choix est fait, parce que vous comprenez, son voisin, il a pris le traitement et il est content. Enfin, je n'ai pas lui montré les données probantes, le choix il est fait. Et bien, on ne se base pas sur la médecine, sur les preuves, on se base sur d'autres facteurs. Moi, je ne suis pas obligé, j'ai ma responsabilité. Il y a une discussion. Mais en fait, vous voyez bien que les preuves, des fois, on sent bien que la décision, elle va être prise, elle est prise avant. Elle est prise. Mais justement, la méthode, avec un grand M, la méthode scientifique a été créée pour nous protéger de ces influences de toute nature. Parce qu'on sait très bien que quand on veut décider, il y a des enjeux énormes. Alors, je ne l'ai pas dit dans les conclusions. En fait, je m'aperçois que je n'ai pas présenté la diapo ta fin.
On voit que
non, je veux la fin. Parce qu'en fait, je vous ai pas dit de la conclusion de tout ça. Je reviens en arrière. C'est qu'en fait, l'essai clinique randomisé, voilà, c'est ça. Excusez-moi. C'est ça ma conclusion. C'est que l'histoire et l'épistémologie de l'évaluation d'efficacité conduisent aux essais cliniques. C'est la démarche test d'hypothèse de Neumann dont je vous ai parlé, qui permet une objectivité devant des accords. C'est un moyen de s'entendre, en fait. Si vous enlevez l'essai randomisé, mais on va faire comment? Ça va être pire, en fait. Pour moi, ça va être pire. Déjà que c'est compliqué. Alors, si on l'enlève, on va se priver d'un moyen d'évaluation. Mais surtout, et vous qui êtes sensible à ça, pas n'importe quel type d'essai, mais pour moi, et je fais écho avec ce que Hervé a cité, l'inflation médicale, j'avais oublié, j'ai le bouquin en français, de Cochrane. L'essai clinique, c'est ce qui va embêter la pratique. Ça limite, c'est auto-limitant. Ça limite l'ubris, la démesure. Les essais sont jamais vraiment très positifs. Ils montrent paradoxalement, en fait, c'est les contacts que j'ai fait avec 15 ans d'études sur la question, c'est que les essais sont jamais bien, il y en a quelques-uns, mais globalement, il n'y en a pas beaucoup. En fait, ils nous limitent. Donc ça marche. Ça peut être entendant, il faut l'entendre dans un mouvement de sobriété.
si on veut moins prescrire, si on veut moins traiter, demandons des données probantes pour le justifier. C'est ce que disait Cochrane, en fait. Si on veut rembourser, ne remboursons pas tout, remboursons ce qu'il a démontré. Et puis les coûts écologiques de tout ce qu'on fait. Les dépistages, aller faire des scanners, des machins, des quoi. Si on les prend en compte et qu'on dit aujourd'hui, mais j'ai pas de données pour me dire ça améliore la santé. Pourquoi on rembourse tout ça et la pollution qui va avec? Enfin, j'ai envie de vous dire. En fait, l'essai clinique, il faut le voir comme un moyen de se protéger nous-mêmes, en fait. Moi, c'est ce que j'ai compris au départ, je l'ai critiqué. Et j'en suis aujourd'hui un gardien du temple au conseil scientifique. Parce que je me rends compte qu'en fait, que si on l'enlève, le système n'ira pas forcément mieux. Et c'est là où c'est paradoxal, c'est que du coup, je me confronte à des personnes qui ne pensent pas, qui attaquent toujours, en fait. Et je comprends pas pourquoi on l'attaque, parce que voilà, ça fait partie de la nature humaine d'attaquer des colosses. Mais peut-être que c'est une erreur. C'est ça que je voudrais vraiment à discuter. Ça veut pas dire qu'il faut pas améliorer les choses, mais ça veut dire qu'il faut pas le jeter aussi vite. Parce que voilà, ça pourrait avoir des conséquences dramatiques.